Bonjour, bonjour, Yves au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes. Je rappelle, j'apprends, je disperse façon Pulse à ceux qui nous rejoignent, à ceux qui nous sont fidèles, que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale, parfois improbable, parfois probable, parfois pertinente, parfois autrement, vous l'avez complété par vous-même, les petites images qui bougent sur les grands écrans et sur d'autres choses que je ne nommerai pas et que je n'utilise pas depuis maintenant un peu plus d'un siècle. Ce jour, eh bien, j'oserais dire que nous allons nous envoyer en l'air, mais ce serait certainement à moi à propos sur les antennes de Divergence FM, disons que nous allons aller dans l'espace, vous m'aviez compris j'espère, pour évoquer en trois films tout simplement eh bien, quelques voyages dans l'espace. Alors un thème bien ténu, simplement l'occasion d'écouter, en tout cas je le souhaite pour vous comme pour moi, de la bonne musique de film, vous avez compris. Nous allons commencer eh bien, non pas par un cinéaste mais par un compositeur familier des musiques un peu planantes, puisqu'il s'agit de John Barry, compositeur bien connu auquel on attribue d'ailleurs mal à propos là encore le thème de James Bond, que je ne vous imiterai pas là maintenant mais peut-être après avoir écouté un petit extrait musical, alors que le dit thème musical était signé de Monty Norman. Voilà, vous avez appris quelque chose et nous n'avons même pas commencé depuis 3 minutes cette émission de 24 notes secondes. Cela dit, John Barry a composé, et vous allez en juger par vous-même, la musique d'un grand nombre de James Bond, d'ailleurs plutôt pas mal, notamment Goldfinger et quelques autres. Goldfinger, un chef-d'œuvre absolu. Et en l'espèce, Je tournais autour du pot, nous y voilà, la musique d'un film tourné en 1979 par Lewis Gilbert, un vieux routier du cinéma anglais qui a dû débuter quelque part dans les années 40 et qui donc en 1979 se trouva à la tête du cirque du Barnum que représente toujours, paraît-il, le tournage d'un James Bond. Peut-être que maintenant c'est un peu plus sérieux, mais en tout cas dans les années 80 ça l'était d'autant moins que à l'époque le rôle principal, celui de Bond, My Name is Bond, était tenu par Roger Moore. Et oui, le Roger Moore d'Amicalement Vôtre, vous savez, celui avec Tony Curtis qui n'ont pas succédé mais en tout cas avait repris le rôle au seul, au vrai James Bond, Sean Connery. Mais oui, je vous l'ai entendu dire quelque part derrière vos postes de radio, Sean, tu resteras notre préféré. Roger Moore apporta au rôle des touches d'humour, parfois bienvenue, parfois qui tournait à la dérision, et la dérision, on n'aime pas trop ça quand on est dans un James Bond. C'était pourtant le thème principal de Moonraker, je ne vous l'ai pas encore cité, donc le titre du James Bond de 1979, dans lequel on voyait non seulement Roger Moore, mais aussi Lloyd Childs. Vous vous souvenez de Lloyd Childs? Moi non plus. C'était une James Bond girl et ma foi, elle a fait certainement d'autres choses que du cinéma ensuite, et dans le rôle du méchant, il y a toujours un méchant dans les James Bond, et bien rien moins que Michael Lonsdale dorénavant, qui fait plutôt maintenant, vous le savez, dans d'autres formes de En l'air et quelques bondieuseries, pardon, je ne devrais pas dire ça. On retrouvait aussi Corinne Clery, que personne n'a oublié, en tout cas pas les amateurs de films un peu coquins des années 70-80, puisqu'on la voyait dans Histoire d'eau et ce genre de choses. Tout cela ne nous rajeunit pas. Et on voyait aussi Richard Kiel, vous n'avez pas pu l'oublier, puisqu'il a joué dans plusieurs James Bond un rôle relativement récurrent, celui de Jaws, une espèce de géant monstrueux avec des dents d'acier que James Bond ne parvenait jamais à vaincre. Enfin si, enfin non. Tout cela ne prêtait guère à conséquence, on y retrouvait des décors somptueusement mis en place par Ken Adams, un grand artisan et un grand artiste des James Bond et d'autres films. C'est Claude Carlier, notre Franco Claude Carlier, qui avait signé les cascades de ce film. Ma foi, c'était pas mal venu. Albert R. Broccoli, j'adore les gens qui s'appellent Broccoli, mais moins les Broccoli, était à la production, c'est-à-dire c'est lui qui apportait les sous et... Vous l'avez suivi, John Barry était à la musique. Maintenant, j'ai été assez bavard. Place justement à la musique. Nous partons dans l'espace, mais vous restez bien sûr Divergence FM.
Thank you.
Voilà un très large extrait de la bande originale de Moonraker, une musique de John Barry, bien dans le style de John Barry, des cordes, que des cordes ou presque. Le thème de ce jour, c'est dans l'espace, dans 24 notes secondes, et il se trouve hasard, mais non, pas hasard, préparation, que le morceau en question évoquait justement la navette spatiale Moonraker. C'était là aussi le titre du film que des méchants, et notamment Drax, interprété par Michael Lonsdale, détournaient pour des fins du monde, bien sûr, vous l'aurez compris. Bref, que de la routine dans ce James Bond, où James Bond lui-même était interprété par Roger Moore, avec à ses côtés, je vous l'ai dit, je vous la redis une dernière fois, on l'a oublié depuis, Lois Childs, qui était la James Bond Girl de 1979. Alors, je ne résiste pas à vous dire que dans le film, son personnage s'appelait Holly Goodhead. Je vous laisse avec les sous-entendus anglo-saxons. Bref, rien que de l'oubliable, mais en tout cas, une musique assez ample que nous allons prolonger d'une certaine manière en écoutant maintenant un extrait de la bande originale d'un film de Joe Dante. Alors, je ne sais plus trop si on dit Joe Dante ou Joe Dante, ça dépend des jours et des snobismes. En tout cas, un film tourné en 1985 et qui réunissait dans les rôles principaux Ethan Hawke et le regretté River Phoenix, disparu tragiquement, ça fait partie de ses destins hollywoodiens tragiques, qui était à l'époque fort jeune dans un film dont ma petite fiche dit comme genre aventure science-fiction famille. Et effectivement, c'était tout à fait ça, on y voyait quelques jeunes garçons dans ces banlieues idéales, symbolisées par Steven Spielberg dans beaucoup de films comme E.T. et quelques autres, qui fabriquaient dans leur garage ou leur arrière-cour une sorte de vaisseau spatial pour partir dans l'espace et rejoindre un autre vaisseau spatial dans lequel il y avait des extraterrestres. Mais bon, je fais un peu spoiler, mais si vous le voyez, ça ne changera pas grand-chose. Extraterrestres qui en fait étaient des enfants, et des enfants, je dirais, plutôt malvenus, plutôt mal éduqués. Bref, un film finalement plus fin qu'il n'y paraissait. Derrière les aspects infantiles des situations, Joe Dante, comme il sut le faire dans beaucoup de films de divertissement qu'il signa, et notamment l'indépassable, j'allais dire trilogie, hélas, nous n'en vîmes que deux, l'indépassable Gremlins et Gremlins 2, je vous rappellerai peut-être les règles pour les Gremlins, pardon, pour les Mogwai, après avoir écouté un extrait de la bande originale d'Explorer, vous ai-je précisé qu'il s'agissait d'Explorer, pas encore, voilà qui est fait. Bref, donc Joe Dante savait donner à cette histoire vaguement puérile, eh bien, des tourments peut-être plus adultes et une sorte d'amertume qui, évidemment, ne ternissait en rien l'aspect spectacle familial de la chose, mais qui, au moins, contribuait un petit peu à élever le débat. Ça tombe bien dans une émission consacrée à l'espace. Nous allons écouter un large extrait de la bande originale de ce film, une musique signée de Jerry Goldsmith, alors qu'il fut l'un des collaborateurs attitrés de Joe Dante, puisqu'il fut notamment le compositeur de la musique des deux Gremlins précités, avec la fameuse March of the Gremlins, ou plutôt la marche du... Enfin, je ne sais plus trop. Bref, Joe Dante, Jerry Goldsmith, ces deux-là s'entendaient comme larron et foire, et je lisais dans une interview de Joe Dante combien il était nostalgique du regretté, là encore, Jerry Goldsmith. Bref, pas de misérabilisme et surtout pas de morbidité dans 24 notes secondes, plutôt place à la musique, avec donc dans l'espace un large extrait de la bande originale d'un film, je récapitule, de Joe Dante, Explorer, tourné en 1985, une musique de Jerry Goldsmith. Thank you. Et hop, le lyrisme parfois enfantin mais toujours fort, dynamique, fort, enthousiasmant de Jerry Goldsmith pour la bande originale d'un film de Joe Dante tourné quelque part vers 1985, ça s'appelait Explorers et ma foi c'était pas malvenu, les petits films comme on aimerait en revoir plus souvent. Vous êtes toujours sur Divergence FM, vous êtes toujours sur ou dans 24 notes, non plutôt 24 notes secondes et nous évoquons l'espace à travers quelques films et nous allons conclure, mais oui, hélas, cette émission en évoquant musicalement un film de Ron Howard tourné en 1995, me précise ma petite fiche qui ne se trompe jamais, un film intitulé Apollo 13 et qui, comme son nom l'indique, eh bien, retraçait le voyage avorté vers la Lune de la mission Apollo dont ma petite fiche précise que c'était la 13e du programme, comme si de fait nous n'aurions pas pu le deviner. Ma foi, on n'est jamais trop précis, je le suppose. Une mission donc qui avorta puisque pendant le voyage vers la Lune, il y eut un problème technique et que l'astronaute en chef de la mission, James Lowell, prononça cette fameuse phrase « Houston, we have a problem ». Et effectivement, ils avaient un gros problème qui justifia un sauvetage à distance et qui permit, bien évidemment, nous sommes dans le cinéma américain, après tout c'est la vraie vie aussi, qui permit de ramener tout ce beau monde, en l'espèce les trois astronautes embarqués dans le vaisseau Apollo 13, j'allais dire à terre, mais non, à l'époque c'était dans la mer. Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton, Gary Sinise et Ed Harris, bref, que du lourd, que des beaux mâles pour un film de fait qui laissait peu de place aux éléments féminins et qui retraçait avec une grande honnêteté, mais aussi avec cette démagogie nationaliste dégoulinante pour laquelle nous haïssons les Américains, qui retraçait donc la mission Apollo 13. Cette année-là, eh bien, le film eut deux Oscars, je dirais pas vraiment les plus réputés, le meilleur montage et le meilleur son. Il faut dire effectivement qu'il y avait, et ça, ça me fait toujours rire, de très très bons sons dans l'espace, alors qu'on sait très bien que l'espace est un milieu où il n'y a pas suffisamment de matière pour que le son se propage. Je vous rappelle, le son se propage dans un milieu. Vous aurez appris au moins deux choses dans 24 notes secondes ce jour, pas plus, ça risquerait de faire trop. Bref, le film obtint l'Oscar du meilleur montage et du meilleur son, même s'il avait concouru pour celui du meilleur film, du meilleur acteur dans un second rôle et aussi quelques autres, mais aussi celui de la meilleure musique de film. J'y venais, c'est même pour ça que je le citais, une musique signée de James Horner, alors un cinéaste, un compositeur bien connu, et notamment pour avoir signé la musique de quelques films de James Cameron, et notamment Aliens, Titanic et Avatar, bien sûr. Bref, un habitué des grosses, mais alors des très très grosses productions, et qui signala, eh bien là encore, une musique un peu dégoulinante, etc., comme je l'ai évoqué, ma foi, dans 24 notes secondes, et nos fidèles le savent, parfois on est dans un brin de perversité, donc ça n'empêche pas qu'on aime bien ça. Du coup, on va écouter un large extrait de cette bande originale. Alors je vous répète, Apollo 13, voilà, c'est ça, je cherchais le numéro. Un film de Ron Howard tourné en 1995, comme ça vous le saurez. Une musique de James Horner dans 24 notes secondes. Allô, Apollo, ici la base, 24 notes secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Pff, Apollo, bien compris, on rentre, Roger. Pff, au revoir, à bientôt, bye bye.